Chapitre 4. Dans les grandes salles solitaires du château de la Coninée, Isoline erre lentement, la tête inclinée, les mains pendantes comme perdues dans un demi-sommeil. Elle va de chambre en chambre, sans bruit, ainsi qu'un fantôme, traînant les plis d'une longue robe blanche. Autour d'elle, un luxe moderne, grave et déjà un peu fané, complète les anciennes élégances du vieux manoir. Aux caissons de chêne des plafonds fleuronnés, aux tapisseries éteintes, aux portraits enfumés, enchâssés dans les boiseries des murs ou au-dessus des cheminées monumentales, s'ajoutent des lustres de baccarat, des étoffes nouvelles aux beaux plis souples, des meubles commodes et, par places, des tapis épais. Tout est dans un ordre rigide, le parquet est ciré soigneusement. À toutes les hautes fenêtres, les volets intérieurs sont à moitié repliés. Animée par une famille heureuse, cette demeure n'aurait rien eu de triste, l'été surtout. Mais cet abandon sans désordre, ce désert correct, ce vide, dans un lieu qui semblait prêt à recevoir des hôtes, était plus désolé peut-être que la solitude d'un château délabré. Cette jeune fille, condamnée à un si cruel isolement, n'avait pas le secret de son existence. La puissance qui pesait sur elle et enchaînait sa liberté ne s'était pas expliquée. Son sort était écrit seulement sur une pancarte mise sous verre, accrochée à une muraille, et c'était jusqu'alors le résumé de sa vie. Elle était ainsi conçue. L'enfant sera élevé par Marie Damon, qui viendra habiter le château. Dans 7 ans, Marie Damon quittera le château et n'y rentrera jamais. Le père jésuite que j'ai désigné viendra alors faire l'éducation de la demoiselle. Il lui apprendra à lire et à écrire, rien de plus. L'éducation terminée, personne autre que les gens de service ne franchira la porte du château. L'intendant chargé de toucher les fermages fournira aux dépenses. Il ne remettra jamais d'argent à la demoiselle qui lui fera savoir par écrit ce qu'elle désire. Les repas seront servis à heure fixe et en silence. En cas de maladie, une sœur de l'hospice sera admise au château. Le train de maison restera ce qu'il est, réduit au nécessaire. Lors de mon séjour annuel et pendant toute sa durée, mademoiselle ne sortira pas de sa chambre. Ceci bien compris, qu'il ne m'en soit plus jamais reparlé. Et au-dessous, un grand cachet armorié imprimé sur la cire rouge. La première enfance d'Isoline avait seule été heureuse. Marie Damon s'était donnée tout entière à cet enfant qu'on lui confiait. Mais c'était une vierge mère sans expérience pour tout ce qui n'était pas soins attentifs et dévouement. Les gronderies, les sévérités nécessaires pour assouplir le caractère impérieux d'un enfant et diriger ses instincts lui furent complètement inconnues. Cette beauté exquise de la petite Isoline, ses grands yeux qui s'ouvraient comme des fleurs, cette chair pareille à celle des camélias du jardin, lui noyait le cœur de tendresse. Elle se croyait vouée à la garde d'un ange, mais cet ange, sans cesser d'être adorable, devint un diable en grandissant. Marie vécut alors dans des transes continuelles, ne songeant qu'à sauver l'enfant des dangers où il lui semblait qu'elle se jetait sans cesse. C'était des courses folles avec la chèvre nourricière sur les pentes rapides du parc en amphithéâtre, des escalades des arbres où les habits restaient, où les petites jambes s'écorchaient, des pataugeages dans les mares qui faisaient de ce chérubin un égoutier. Tout devint sujet de terreur pour la pauvre mère d'élection, la flamme des bougies, le feu de la cheminée, l'étang, la hauteur des fenêtres. L'enfant, effréné de jeux et de mouvements, ne lui laissait pas de repos, la torturait, mais l'aimait avec passion. Il y avait des heures très douces où elle venait, avec les caresses les plus tendres, sécher les larmes qu'elle avait arrachées par ses caprices fous à son adorable nourrice. Jamais Marie ne sortait du château ni du parc, et sans les quelques domestiques de la maison, ces deux êtres eussent pu se croire seuls au monde. Isoline ne vit jamais d'enfant. Elle croyait que tout finissait au mur du jardin, et l'humanité pour elle, c'était Marie et la chèvre blanche. À 6 ans, la fillette s'adoucit un peu, elle devint plus posée, plus questionneuse. Marie versa dans cette jeune âme les trésors de son esprit résigné et naïvement poétique. Elle lui raconta les légendes qu'elle savait, les fées des grèves, habillées d'algues, se cachant dans les grottes profondes où elles attirent le pêcheur imprudent, les villes merveilleuses englouties par les flots et dont on aperçoit encore, quand l'eau est claire, les clochers d'argent et les palais de pierreries, les biches blanches changées en princesses et récompensant le chevalier qui les a épargnées, les elfes, les lutins, les enchanteurs dans les forêts fleuries. Il y avait aussi des fils de rois qui allaient conquérir pour leur père une clé d'or ou quelque relique précieuse. « Qu'est-ce qu'un père ?» demandait l'enfant. Alors Marie s'attristait. Elle essayait de lui faire comprendre que le père était le maître de l'enfant, qu'il fallait se soumettre à lui, ce qui était doux et facile lorsqu'on était aimé, mais bien triste lorsqu'on ne l'était pas. Elle lui parlait alors de la séparation cruelle dont le terme approchait, et aux sanglots d'Isoline, elle ne savait répondre que par des larmes. Les 7 ans passèrent pourtant, et l'horrible séparation eut lieu. Il fallut arracher l'enfant cramponné à sa nourrice, en lui laissant dans les mains un lambeau de son jupon. Elle eut des convulsions et pendant longtemps fut en danger de mort. Marie, de son côté, se mit au lit dans la cahute depuis 7 ans inhabitée et que l'humidité dévorait. Par bonheur, son frère qui naviguait revint du service à ce moment. Sans cela, elle fut morte, privée de tout secours. Damon se révolta là où sa sœur courbait la tête avec une soumission douloureuse. Il parla de la police. Ce baron, à moitié fou, n'avait pas le droit de martyriser une innocente, fût-elle ou non sa fille. Il s'emporta, jura tous ses jurons de marin en frappant du poing la table vermoulue. Mais sa sœur lui démontra qu'il n'y avait rien à reprendre légalement dans la conduite du baron. Il était libre d'imposer le système d'éducation qui lui convenait. L'intendant, homme froid et ambitieux, qui avait son intérêt à obéir ponctuellement, lui avait fait comprendre que le mieux était de se conformer au règlement sans le discuter, de peur de le voir devenir plus sévère encore. Ce règlement, qu'est-ce qu'il disait? Marie le savait par cœur, elle l'avait 100 fois relu. Damon l'écrivit sous sa dictée, le lut, le relut à son tour, le médita longuement. Un soir, il se frappa le front avec un éclair de joie. « Il ne lui est pas défendu de sortir » s'écria-t-il. En effet, soit omission, soit oubli, cette défense n'existait pas. Damon courut au château et rôda alentour toute la journée. Les murs, les futaies épaisses ne laissaient pas de passage au regard, mais du côté de l'étang, le château se découvrait un peu. Il se mit en sentinelle et guetta. Vers le soir, il aperçut Isoline qui montait le perron suivie d'un homme noir. « Ah, le corbeau !» se dit-il. Ils disparurent dans la maison. Que faire? Comment attirer l'attention de l'enfant? Marie était venue bien souvent à cette place pour l'apercevoir de loin, mais elle se cachait de peur d'être vue. Il fallait se montrer, au contraire, faire des signaux. Ils n'aboutirent à rien, la fillette ne faisait que passer au loin et ne regardait pas de ce côté. Franchir les murs ou les haies n'eût rien été pour Damon. Mais il y avait des chiens qui l'auraient signalé ou peut-être dévoré. De plus, le sieur Mathurin Ferron, le rigide intendant, n'aurait pas hésité à lui envoyer un coup de fusil. Ils cherchèrent longtemps un expédient, ne songeant qu'à cela, un peu soutenu et consolé par l'espérance. « Il n'est pas défendu non plus d'écrire, » disait Damon. « Attendons que la pauvrette sache lire, » répondait Marie avec son angélique patience. Et il comptait les jours, supputant les progrès probables de l'élève. Le jésuite, homme âgé déjà, d'aspect repoussant, d'esprit médiocre, qui se signalait par une odeur de relent insupportable, avait causé à Isoline une peur terrible qui fit prévoir le retour de ses crises. Pendant sa convalescence, elle était devenue complètement sauvage, s'enfermant dans un silence opiniâtre. Le père Coué n'était pas méchant et il se faisait très doux. Il venait chaque après-midi, s'asseyait et parlait longuement, sans exiger ni attention ni réponse. Ses paroles onctueuses finirent par la rassurer, et un jour, brusquement, elle se tourna vers lui. « Où est Marie ?» lui dit-elle. « Dans le ciel, » répondit le prêtre. « Allez me la chercher !» Alors il entrevit un moyen d'avoir raison de son élève rétive. Sans savoir ce qu'était Marie, il lui promit qu'elle la verrait quand elle saurait lire parfaitement. Isoline prit une colère terrible, trépigna et hurla. Mais le lendemain, elle demanda au père Coué si c'était long d'apprendre à lire. « Cela dépendra de vous. Marie lui avait déjà appris en cachette les lettres de l'alphabet, la mémoire lui en revint bien vite et le père Cohoué fut stupéfait de la facilité que montrait la petite solitaire. Elle se plia à l'étude avec une étonnante souplesse, s'appliqua de toutes ses forces. Son maître obtenait ce qu'il voulait en lui répétant « Vous verrez Marie ». Lorsqu'il était parti, elle reprenait le livre et s'acharnait. Elle avait bien encore des impatiences où étaient mises en pièces livres et cahiers, mais elle s'efforçait de nouveau et négligeait même sa chèvre blanche, qui était, après Marie, le seul être qu'elle aimât. Le père Cohoué n'était pas sans inquiétude en voyant les progrès de son élève. Que lui dirait-il lorsqu'elle serait au but et que son espoir s'écroulerait? Il pensait bien à lui apporter une jolie vierge de plâtre et à lui affirmer sans mentir que c'était là Marie. Mais il voyait la statuette en mille morceaux sur le parquet et il se demandait comment il mènerait à bien l'écriture. Le jour vint où l'enfant lut sans faute une page entière, elle battit des mains et pour la première fois il la vit rire. « Marie, Marie » cria-t-elle. Il se montra sévère, prétendant qu'elle ne savait encore canonner, qu'il y avait loin de là à une lecture parfaite. Il gagna du temps, mais non sans orage. Il venait à la leçon avec une honte cachée. Une fois, elle se leva brusquement et avec une dignité bizarre. « Vous êtes un menteur !» lui cria-t-elle en lui lançant le livre au visage. Le père offrit cet affront à Jésus. Il se crut vraiment récompensé de son humilité lorsqu'en traversant la cour à la suite d'Isoline qui lui échappait, il vit un garçon de ferme remettre à la fillette une lettre et qu'il en eut pris connaissance d'un coup d'œil par-dessus la tête de l'enfant. « Ma chère petite Isole, j'espère que tu sais lire à présent et que tu pourras me comprendre. Écoute bien si tu m'aimes toujours comme autrefois. Il ne t'est pas défendu de sortir, moi je ne peux aller vers toi. » Mais je t'attends de l'autre côté de la porte qui donne sur la vallée. Passe bravement cette porte et tu seras dans mes bras. Marie. Isoline poussa un cri strident, s'élança vers la grande porte verte dont elle était peu éloignée et se mit à la frapper avec frénésie de ses poings fermés. « Ouvrez ! Ouvrez ! » hurlait-elle. Mathurin Ferron accourut. « Que désire, mademoiselle ? Ouvrez la porte, je veux sortir !» « Sortir ? De quel droit m'en empêcherez-vous » Mathurin fit un salut et s'éloigna pour aller relire la fameuse pancarte. Il revint bientôt et tira lui-même les barres de fer du portail. « Je connais mes devoirs, dit-il. En tout ce qui n'est pas contraire au règlement, je suis aux ordres de mademoiselle. » La porte s'ouvrit, la vallée avec ses verdures fraîches apparut baignée de soleil. Isoline, d'un seul bond, s'élança dehors et pour la première fois franchit les limites du château. Marie, qu'un arbre masqué, fit un pas et la reçut dans ses bras. Ce fut une étreinte nerveuse mouillée de larmes où les mots s'étouffaient. Puis elles s'assirent sur l'herbe, serrées l'une contre l'autre, se regardant à travers les pleurs. L'enfant avait pâli, grandi, les yeux de la mère s'étaient creusés et ses petits bandeaux, sous la coiffe, étaient tout blancs. Elles restèrent là jusqu'au soir, se parlant bas, craintivement. Marie l'exhorta à la prudence, à la soumission. « Quand tu sauras écrire, disait-elle, nous serons plus libres. » Lorsque la cloche du dîner sonna au château, l'intendant apparut sous la voûte de la porte, ébauchant un salut. « Va, va, ma chérie, disait la nourrice, sois bien sage si tu veux me revoir. »« Emmène-moi, disait tout bas l'enfant. » « On nous aurait bientôt rattrapés. Obéis, mignonne, je reviendrai demain. » L'enfant finit par céder et s'éloigna le cœur gros. « À demain » cria-t-elle en repassant la porte. Lorsque le père Cohoué reparut, Isoline anna à lui gravement et d'un air contrit. « Pardon, monsieur, dit-elle, vous n'êtes pas un menteur. Je vous remercie de tout mon cœur de m'avoir rendu Marie. » « Je vous pardonne, dit le père, toujours un peu gêné, et j'espère que vous allez continuer à être sage et appliqué. » L'écriture marcha rapidement et, au bout d'un an, le père Cohoué dit adieu à son élève. Elle le regretta, ayant fini par s'accoutumer à lui, et puis, dans le vide de son existence, le travail était presque une distraction. Elle était grandelette maintenant, atteignait 10 ans. Marie lui apprit, toujours en secret, un peu de couture et le grand art du tricot. Mais ses travaux ennuyèrent Isoline. Un peu de gaieté lui était revenue. Elle gaminait au bord de la Rance, sur les rochers glissants, allant pêcher avec Damon sous les averses et les coups de vent. Mais elle restait sauvage comme une bête des bois. C'était des courses folles lorsqu'elle apercevait au loin un passant, et si quelqu'un entrait dans la chaumière, elle se cachait dans l'armoire. Un soir, elle laissa passer l'heure du dîner, et lorsqu'elle rentra, trouva le couvert ôté et tout en place. Elle se plaignit à Mathurin. « Les repas seront servis à heure fixe, » dit-il en s'inclinant et en montrant du doigt la pancarte. Elle s'alla coucher à jeun et le lendemain goûta au lait aigre et à la galette de sarrasin à moitié cru des Damons. Cette nourriture lui donna des nausées et depuis lors, elle s'efforça d'être exacte. Lorsque le vent du sud soufflait, elle entendait la cloche de chez Marie. Elle prenait sa course alors et arrivait à temps. Quelquefois, elle manquait le potage. L'intendant, un habit noir, automatique, servait, elle absente, comme si elle eût été là. Il lui arriva de ne venir qu'au dessert, et alors elle se bourrait de fromage. À 15 ans, elle s'attrissa tout à coup, devint rêveuse et inquiète, voulut connaître le secret de son existence et tortura Marie pour le lui arracher. Elle guetta la visite annuelle du baron, cet homme qui était son père et qui jamais ne l'avait vu. Il arrivait le soir à la nuit tombée. Les deux battants du portail s'ouvraient pour laisser entrer sa voiture. Isoline, sans lumière dans sa chambre, collait son visage aux vitres, voyait briller les lanternes, puis Mathurin s'avançait, obséquieux. Un homme grand, vêtu de noir, descendait et entrait dans la maison. Il allait occuper une chambre au premier étage qui, pendant son absence, restait fermée. On tirait alors de la voiture des caisses qui semblaient légères. Une heure plus tard, les vitraux de la petite chapelle, dont le baron seul avait la clé, s'illuminaient, et aussi tard que la jeune fille veilla, ils ne s'éteignaient pas. Un matin, au jour, le baron repartait. Isoline, qui jusqu'alors s'était confinée dans l'aile du château qu'elle habitait, commença à ouvrir curieusement des portes dont elle ne s'était jamais souciée, visita sa prison, alla à la découverte. Elle vit de grands salons en enfilade, sobrement meublés, obscurcis par les volets clos. Elle en repliait un pour mieux voir, et souvent la lumière, tombant sur un portrait d'homme de guerre, lui faisait pousser un cri. Au premier, de longs couloirs, des chambres plus ou moins élégantes, celle du baron fermée et où elle essayait de voir par le trou de la serrure. En face de l'escalier, sur le large palier d'arrivée, se dressait une porte haute en noyer sculpté, rehaussée de dorures, qui lui semblait très imposante. La jeune fille l'ouvrit un jour, non sans émotion. Elle entra dans une pièce carrée, ayant des divans tout alentour, un tapis sur le sol et garni du haut en bas de livres reliés. À partir de ce jour, la cabane des Damons la vit moins souvent. Isoline découvrait le monde. Elle se jeta dans la lecture avec toute la fougue de son caractère. Quelle stupéfaction ! Toutes ces existences qui sortaient de ses feuillets, tous ces êtres qui naissaient dans son esprit, évoqués par les mots. Ce fut d'abord un chaos insensé, une mêlée d'histoires, de poèmes, de philosophies qui l'affolaient. Puis le jour se fit, elle eut des préférences, l'histoire la séduisait, mais les vieux romans de chevalerie la passionnèrent, elle ne dormait plus, mangeait à peine, ne sortait jamais. Comme elle ne savait rien et ignorait le monde réel, elle crut à celui qui peuplait ses rêves et y vécut exclusivement. Toutes sortes d'aspirations lui venaient. Elle ne pouvait plus souffrir les habits simples qu'elle avait toujours portés. Elle demanda de la soie, de riches étoffes, des parfums et du linge brodé. Mathurin lui procura tout cela. Elle prit ses modèles alors dans les gravures de tous les temps, gâta bien des étoffes, mais finit par devenir habile. Un jour, elle demanda un cheval. « Il y en a dans l'écurie, » dit Mathurin, « si mademoiselle veut choisir... » Sans compter les chevaux de la ferme, Isoline en vit 3. 2 percherons gris pour le carrosse et un cheval noir d'assez bonne race, mais alourdi par l'inaction. « Celui-là, » dit-elle. Mathurin alla chercher une selle de femme et sella le cheval noir, puis il tint l'étrier. « Mais je ne sais pas monter, » dit la jeune fille. Si mademoiselle l'ordonne, je peux lui donner quelques leçons, dit l'intendant, qui avait été autrefois très bon écuyer. Je le veux, dit-elle. Les leçons d'équitation eurent lieu dans le parc, et Isoline, agile comme un gamin, fut bientôt rompue à cet exercice. La première fois qu'elle sortit à cheval, le garçon d'écurie endossa une livrée, monta un des percherons et la suivit à distance. Elle alla devant elle sans s'éloigner beaucoup les premières fois, puis, s'enhardissant, fit de longues courses, s'enfonça dans les campagnes superbes, vit la mer. Mais cet être disgracieux et sans volonté qui la suivait, à une distance toujours égale, l'impatientait. Elle lui fit défendre de l'accompagner et, seule, vagabonda des journées entières. La nature l'enivra, les grands horizons, les ciels changeants, la variété infinie des sites lui causèrent ses premières joies. Mais ce bonheur s'usa vite, les mauvais temps accoururent, la pluie barrait les routes, le brouillard effaçait le paysage, et le vent modulait ses plaintes dans les flûtes des serrures. Tous les livres de la bibliothèque étaient lus et relus. Que faire? Que devenir? Un désespoir de plomb écrasait la pauvre Isoline. Elle comprenait maintenant l'horreur de sa vie et voyait qu'elle était sans issue. Elle était femme déjà, elle devait donc vieillir là et mourir. Sa jeunesse, sa beauté, tout s'engloutirait, inconnu, dans ce tombeau désert. Et elle sanglotait et criait seule en face de sa lampe, tandis que l'eau ruisselait dans les gouttières. « Pourquoi attendre ?» se disait-elle. « Pourquoi ne pas hâter la fin ?» L'idée de se tuer s'empara d'elle et grandit rapidement. Elle fit souffrir 1000 morts à Marie en lui disant sa folie. Plusieurs tentatives de suicide avortèrent, elle se blessa, se rendit malade, mais revint à la vie. « Je finirai bien par réussir cependant, » disait-elle. Le jour où Gilbert l'avait attendue vainement à l'église, elle errait dans le château de Saint-Lansal, reprenant toutes ses tristesses, bien résolue à s'en délivrer cette fois. L'idée de l'étang l'attirait, elle s'étonnait de ne pas y avoir encore pensé. N'était-il pas là, à ses pieds, tout prêt à l'envelopper, à se refermer sur elle, effaçant toute trace, tout souvenir? C'était le remède auprès du mal. Comment n'avait-elle pas, depuis si longtemps, compris cette offre muette de consolation? Elle ouvrit la fenêtre, s'accouda, regarda l'eau immobile. Les buissons se penchaient, effleurant la surface, les touffes d'iris évasaient leurs gerbes, de grands roseaux droits formaient des îlots çà et là. Alentour, la haute futaie tremblait doucement sous une brise tiède. Un feuillage vert clair, translucide, contrastant avec le ton noir des branchages mouillés, commençait à pointer de toutes parts, le ciel jetait un lambeau d'azur au milieu de l'étang. Tout à coup, un oiseau rompit le silence, il lança un sifflement sonore, puissant. « Comment? Les rossignols, déjà ?» Elle leva la tête. À ce moment, le soleil se dévoila, tombant en pluie lumineuse à travers les feuilles claires, illuminant le dessous du bois. De l'autre côté de l'eau, dans la clairière formée par la route, un jeune homme errait, allait, revenait, s'arrêtait en face du château qu'il regardait obstinément. Un éclat doré brilla sur son front et Isoline reconnut l'officier. Elle le guetta curieusement, mais le voyant comme figé par sa présence, elle referma gaiement la fenêtre. « Bah ! S'écria-t-elle, encore ce printemps !»